Le thème de cette soirée, c'est que faire, où aller, si plus rien ne va bien, comme avant, que deviendrons-nous? Cette question m'a été posée de vive voix devant moi-même par deux personnes. Une dame, responsable d'agence immobilière, en me disant « la situation financière mondiale n'est pas bonne et nous vivons ». Oui, nous vivons de l'immobilier, mais du jour au lendemain, il peut s'effondrer, nous ne sommes plus rien. Nous sommes bien fragiles, monsieur Bayeux. Que deviendrons-nous? Où irons-nous si plus rien ne va comme avant? Plus tard, une directrice, une fondatrice d'une crèche, a fait cette même confidence à certains d'entre nous. Cette question se répète sur les trottoirs, dans la poste, dans la banque, dans les magasins, voire dans les églises. Je l'entends, et si je ne l'entends pas, je la vois sur les visages. Et en entamant des conversations, cette inquiétude apparaît dans leurs propos. Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas une question spirituelle sur la vie après la mort, ce n'est pas une question spirituelle à propos de Dieu et pour l'au-delà. Ce n'est pas le reflet d'un engagement non plus de quelqu'un qui milite pour la vérité, de quelqu'un qui veut réformer de manière humaniste ou de manière chrétienne la société. Ce n'est pas le reflet d'une question d'un leader politique de grande envergure qui commence à douter de sa mission. Non, c'est la question de quelqu'un qui avait une idée confortable de la vie et qui a, durant de longues années, pour quelqu'un de 70 ans, 60 ans, qui a accompli cette idée confortable de la vie grâce à son intelligence ou son savoir-faire. Si c'est quelqu'un de 35 ans, 30 ans, il l'a accompli partiellement. Et il se demande s'il pourra encore l'accomplir jusqu'à la fin de son existence. Donc c'est la question de quelqu'un qui a l'idée d'une vie confortable. Être dorloté par l'argent, par les rentrées matérielles, avoir un bon chez soi, avoir des amis, avoir un réseau de relations d'amis, rassurant, joyeux. Toutes ces personnes peuvent être mariées, peuvent avoir des familles, ou peuvent être isolées, célibataires, ou même des personnes vivent en couple homosexuel. Toutes les personnes, de tous les niveaux sociaux, de tous les rangs sociaux, se posent cette question aujourd'hui. Des adultes de 50 à 60 ans qui terminent leur carrière et qui savent que leur retraite peut-être ne leur suffira pas pour vivre, sont à diviser en deux catégories. Ceux qui n'ont pas d'économie et qui savent qu'ils vont souffrir, peiner pour subsister, ils ne seront plus à l'aise. Et d'autres qui ont engrangé de l'argent et des biens et qui pourront s'assurer, semble-t-il, mais parfois ils en doutent, s'assurer une vieillesse heureuse. Tout ceci ne reflète pas un malheur, en fait, ni une privation, ni une vie misérable, chez la plupart des citoyens que je rencontre, mais une perte de confiance générale dans l'avenir financier, dans l'avenir politique et écologique du monde. C'est d'abord la peur d'une vie sans plaisir, sans consommation, comme par le passé, sans grand voyage, sans grandes vacances, sans grandes économies. C'est la peur d'une vie à corps de raide. Cela reflète aussi une découverte qui parfois est non avouée, une vanité qui a réussi tout un temps et qui commence à être évincée. Mes trucs pour arriver ne marchent plus et ne me rassure plus. J'ai tout fait pour y arriver, et rien ne marche. Rien ne va comme avant. Ça devient inquiétant. Cela ne reflète pas une recherche spirituelle, ça reflète une vue assez réaliste d'un danger qui arrive face à une vie bâtie sur le sable, et non sur le rocher. Lisons Osée chapitre 4, versets 1 à 2. Osée, prophète du 8e siècle. « chapitre 4, versets 1 à 2. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité et point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Évidemment, ce sont des paroles sévères. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de miséricorde et de vérité. Pourquoi dis-je qu'il n'y a point de miséricorde? D'abord, l'Europe a mis des barbelés sur toutes les îles de Grèce pour empêcher les Syriens, les Irakiens malheureux, de venir chez nous. Ils sont en train d'y végéter, d'y pourrir depuis des années. L'Europe a donné des centaines de millions d'euros à M. Erdogan pour renfermer dans des camps en Turquie sous ces braves gens qui fouillaient le malheur. Maintenant, M. Erdogan fait une ségrégation entre les chrétiens et les autres. Il prive les chrétiens de toute nourriture, bien souvent. Il place ses réfugiés dans des villages, dans des localités, avec des tentes, des abris, et il fait travailler ces personnes gratuitement comme esclaves dans des entreprises, dans des fermes de Turquie. Nous nous retrouvons dans une situation comme les prisonniers de Buchenwald, de Dachau, qui allaient travailler dans les fermes et dans les entreprises allemandes. L'Europe a-t-elle pris conscience qu'elle ressemble à cette Allemagne durant l'époque nazie? L'Europe a-t-elle perdu conscience de la réalité? Je pense que les citoyens ont voulu une Europe confortable, être dorlotée, et ils ont refusé, pour la plupart en tout cas, de vivre dans la vérité et la miséricorde. Et ils ont refusé la connaissance de Dieu, comme Osée le dit dans chapitre 4, versets 1 et 2. Toutefois, une idée fait jour. Les dirigeants du monde, parmi toute la population, qui a vécu confortablement comme celle qui a été privée depuis longtemps. Une idée fait jour. Les dirigeants du monde ne gèrent plus paisiblement les différents conflits entre eux. Les dirigeants du monde alimentent plutôt les conflits de manière ouverte ou de manière sournoise, par personne ou nation interposée, collatérale. Cette situation crée un état de danger pour le futur du monde. Et les personnes ne sont pas privées d'intelligence, elles ont posé un diagnostic. L'avenir est incertain à cause de l'attitude des dirigeants du monde. La Bible n'a pas attendu 2022 pour le révéler. Jérémie 17, versets 5 à 6. Jérémie 17, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, 5. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Au verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours, il doit les quitter. Nous savons que l'Europe a volé pendant 50 ans, plus de 50 ans, 285 milliards à l'Afrique, dans toutes les négociations commerciales, agricoles, industrielles, etc. Actuellement, l'Europe est en train de le perdre, car la Chine et la Russie s'approprient une grosse part du gâteau. La Chine et la Russie ont tout fait, avec Boko Haram et d'autres groupements armés parus, pour vider l'Afrique des Européens et des Américains. Mais l'Europe a profité de la richesse de l'Afrique. Elle ne lui a pas rendu la moitié de ce qu'elle lui devait. De même pour tous les travailleurs de Chine, d'Indonésie, de Vietnam et d'autres, du Pakistan, du Bangladesh, qui nous ont habillés, qui nous ont chaussés, qui nous ont vêtus, qui ont fourni des pièces pour nos voitures, car la moindre voiture possède des pièces d'au moins 20 à 25 pays, eh bien l'Europe n'a pas eu de reconnaissance. Elle s'est crue la grande veuve, la grande Babylone, qui n'avait point de deuil, qui n'était point veuve, comme dit Apocalypse. Dieu n'a pas de satisfaction à voir cette situation. Le temps d'une civilisation injuste, sans miséricorde et sans vérité, le temps de la gloire est fini. Et c'est cela, je pense, qui crée une peur, une inquiétude chez la plupart, qui a encore une situation confortable aujourd'hui. Jérémie 10, verset 23. Je m'excuse, c'est Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Pensons à tous nos pays, américains, canadiens, européens, qui se vantaient d'être les meilleurs pays en démocratie et en progrès moraux et sociaux. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Jérémie 9, verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, qu'ils n'ont pas suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils sont allés après les Baals, donc après des idoles. Les bergers ont été stupides, dit Jérémie, chapitre 10, verset 21. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Verset 23, je le sais, Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Je pense qu'aujourd'hui, ces paroles peuvent résonner d'une manière claire dans la conscience de beaucoup de dirigeants, mais aussi de beaucoup de citoyens complices de dirigeants. Nous étions complices dans la consommation et dans l'absence de justice. Les religieux prédominants dans notre civilisation européenne et dans la civilisation orientale ont écœuré beaucoup de croyants. Les religieux prédominants ont découragé les âmes qui cherchaient Dieu, ou alors elles les ont séduits. Lisons Philippiens 1, verset 15. Philippiens, chapitre 1, verset 15. Les religieux parlent toujours de Dieu, évidemment. C'est pourquoi j'ai pris ces versets. Chapitre 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ils veulent du bien. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là sont animés d'un esprit de dispute, ils annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Ce conflit qui existait à l'époque du christianisme naissant, ce conflit existe toujours au niveau spirituel dans le monde. Il y a des personnes qui parlent de Dieu par envie et par esprit de dispute et de pouvoir, et qui n'ont pas des intentions pures et qui ne cherchent qu'à susciter des afflictions à tous les autres. Il y a des chefs religieux qui ont l'âme pure, qui ont un esprit bienveillant et qui cherchent à respecter Dieu et à présenter la volonté de Dieu avec droiture. Malheureusement, dans nos civilisations, le grand nombre de menteurs religieux ont écarté une grande foule de la recherche de Dieu. Prenons un autre aspect de ce malaise de la société, c'est que l'ingérence humaine a été abusive depuis 150 ans. Et tout se dévoile aujourd'hui fortement. L'ingérence humaine, la prise de pouvoir des hommes, depuis le siècle des Lumières en France, depuis la Révolution française, une ingérence humaine s'est développée à travers le monde, beaucoup plus fortement. Prenons Jérémie, chapitre 12, verset 4. Les pouvoirs politiques veulent conduire les âmes et les portefeuilles et la santé des personnes. Jérémie 12, verset 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, Dieu ne verra pas notre fin. L'ingérence humaine va au point de ruiner l'économie mondiale et l'écologie. Regardons le verset 10, le chapitre 10, verset 14. Tout homme devient stupide par sa science. Le siècle des Lumières a prouvé désormais sa stupidité. L'humanisme, l'existentialisme, le socialisme, le communisme et toutes les autres tendances arrogantes des hommes à diriger la pensée humaine ont prouvé leur stupidité. Ésaïe le disait déjà à son époque, « Jusqu'à quand, vous, stupides, aimerez-vous la stupidité ?» Les hommes religieux, la soif d'une lumière venue des hommes, la soif d'une ingérence humaine dans tous les aspects absolus de la vie, ont amené un blocage moral et spirituel. Lisons Osée chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Osée, chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. J'ai pris ce verset parce que l'esprit de prostitution au milieu d'eux, c'est ce qui correspond à la grande Babylone dans l'Apocalypse, au chapitre 18, et dans les autres chapitres. L'esprit de prostitution est au milieu d'eux. On se prostitue dans tous les contrats financiers, dans tous les contrats politiques. Le cas le plus typique est le COP 27, appelé COP 26, parce que M. Poutine n'y était pas, COP 27 au sud de la péninsule du Sinaï. Tous les pays riches étaient représentés. Tous les pays de l'hémisphère sud, malheureux et victimes du réchauffement climatique, étaient là, demandant une restitution au nord, au pays du nord. Et il y avait 326 multinationales présentes. Durant ce beau discours, rien n'aboutira, rien n'a été décidé. En Écosse, déjà, en Allemagne, en France, tout était subjugué par des grands cartels du charbon et du pétrole. Cette fois-ci, en 2022, c'est par Coca-Cola. Pourquoi les lobbyistes, pourquoi les multinationales sont-elles présentes dans un sujet si important que le réchauffement climatique ? Simplement, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est eux la forêt. Ils rencontrent les hommes de l'hémisphère sud et ils signent des contrats d'approvisionnement, de monopole vis-à-vis des matières premières. Et quand ces hommes venus du sud retournent chez eux, ils ont beaucoup de promesses et beaucoup d'armes en réserve pour asseoir leur pouvoir, pour défendre la population, défendre leur pays. La COP 27 est une grande imposture qui se répète régulièrement pour asseoir la soif des grands industriels, des grands groupes financiers. Durant ce temps, à même époque, le président des États-Unis et le président de la Chine se rencontraient à Bali en Indonésie et il était d'après les moyens d'information habituels, d'établir de relations de paix entre les États-Unis et la Chine. La réalité est tout autre. Depuis la Chine, Formose, jusqu'aux côtes du Vietnam et les îles d'Indonésie, les îles des Philippines, une immense réserve de gaz se trouve dans l'océan. Et il fallait établir des frontières pour se partager le gâteau, en vue de prospérer industriellement et de continuer la pollution. Donc, tous ces dirigeants n'ont pas le désir d'arrêter la pollution, le réchauffement climatique. Ils ont une finalité économique unique. Un blocage moral et spirituel a été opéré dans nos sociétés, dans nos dirigeants. Ils utilisent les moyens, les mass médias, pour tromper la foule qui se décourage. Y a-t-il pourtant un progrès spirituel de Dieu à travers le monde? Regardons Osée, chapitre 4, verset 1. Quand nous regardons que Dieu a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité pour les miséricordes, si Dieu dresse un procès, c'est qu'il veut régler le problème. S'il fait un procès, c'est pour arrêter l'injustice, l'iniquité. Allons plus loin dans la recherche. Jérémie 7, verset 20. Jérémie, chapitre 7, verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes, sur les bêtes, sur les arbres des champs, sur les fruits de la terre. La terre brûlera et cela ne s'éteindra point. Nous voyons bien que nous perdons 35 000 km² de forêt tous les ans à cause des incendies. Nous voyons bien que les hommes abattent des forêts. Qui comprend que la colère de Dieu a commencé par le feu? Qui? Au chapitre 4, verset 6, de Jérémie. « Voici, je fais venir du septentrion le malheur, un grand désastre. Le septentrion étant bien entendu la Russie et tous les autres pays annexes. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. Pourquoi couvrez-vous de sacs? Pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les prêtres seront étonnés, les prophètes stupéfaits. Il y aura donc une mise à niveau de tous les dirigeants pour anéantir leur orgueil, comme ça a été dans le cas d'Israël précédemment. Prenons Ésaïe 29, verset 12. Ésaïe 29, verset 12. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. La sagesse de ces sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. C'est le cas d'un COP 27. C'est le cas de la réunion en Bali et de bien d'autres réunions. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Les prophètes de l'Ancien Testament méritent d'être honorés aujourd'hui. Leurs paroles méritent d'être mises à jour pour les mêmes réalités que hier, devant la vanité et l'orgueil des humains. Il est clair que ce procès n'est pas le dernier mot. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 20. Nous allons aller vers une lumière, vers un espoir que Dieu a tracé dans sa parole. Lamentations, chapitre 3, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. C'est un peu ça qui se produit aujourd'hui pour nos sociétés, qui s'est plongée dans la vanité. Elle fait l'expérience des ténèbres, car elle a perdu les fausses lumières. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Aujourd'hui, je pense que le poison et la douleur de nos pays, de nos sociétés, c'est les moyens. Les masses médias, c'est les moyens qui découragent, c'est les moyens qui empoisonnent l'âme. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur où je ne sors pas, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer les secours, il n'est pas que ça ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Tout cela, ce sont des réalités spirituelles d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont détruites intérieurement. Verset 15, il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il arrive dans toute civilisation, un moment où la décadence est tellement forte, qu'elle crée le désespoir et l'angoisse. Et il arrive qu'à un moment donné, pour certains, ils tapent du pied au fond de la piscine et ils remontent à la surface. Il arrive que d'autres vont vers l'espoir, vers la foi. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toutefois l'espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasira de proie. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule au pays tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien sûr, sur les civilisations iniques et injustes. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-nous. Retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis sans miséricorde. Mais plus loin, j'ai invoqué ton nom, Éternel, verset 55, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Je pense à l'apôtre Paul, Saul de Tarse, sur le chemin, trois jours aveugle. Il est passé par la fosse, par le brisement. Et je pense que la situation aujourd'hui peut être favorable à la conversion spirituelle. Car chacun voit la fosse. Chacun entend, d'une manière ou l'autre, la colère du Seigneur. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à ma soupir, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Peu à peu, je pense que des esprits se réveillent du sommeil de la mort qui est entretenu depuis 70 ans dans nos pays occidentaux. Du sommeil de la mort, du péché. Peu à peu, les esprits se réveillent et voient Dieu se révéler à eux. Et je pense que c'est le moment favorable pour le salut. Comme Jean-Baptiste, quand il est venu en Israël en annonçant Jésus, le moment était favorable. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés allait arriver. Aujourd'hui, le moment est favorable. Jérémie 9, verset 23. Que le sage ne se glorifie pas sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas sa force, que le riche ne se glorifie pas sa richesse. Voilà donc ce que j'avais lu tout à l'heure et qui est capital. Il faut cesser de se confier dans sa sagesse, dans sa force et dans sa richesse. Abandonner ses idées, ses fausses vertus, ses fausses valeurs. Au chapitre 7 de Jérémie, verset 28, « C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. » La vérité a disparu et s'est retirée de leur bouche. C'est ici. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Voici le jour, vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils diront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Ces paroles d'Amos, au chapitre 8, versets 11 à 13, nous indiquent bien que les personnes errantes sur la planète ont besoin de la vérité. Il y a 20 ans de cela, une personne sur 30 sur la Terre était sans patrie. Et aujourd'hui, peut-être 4 ou 5. Ils diront ça et là pour chercher à parler l'Éternel, ne la trouveront pas. Chers amis, par Internet, par Facebook, par d'autres moyens, on peut rencontrer aujourd'hui la parole de l'Éternel. Et c'est une grande grâce. Dieu a permis que ces moyens techniques et l'activité qu'on en traitera de prosélytisme parfois, l'activité évangélique apporte la parole aux humains. Alors que d'autres, bien sûr, vont refuser, même se rebeller. Il y a donc des esprits qui se réveillent, qui sont dans des situations difficiles à travers le monde et qui cherchent le Seigneur. Il y a aussi des personnes qui recherchent vivement et qui n'ont aucune base pour rechercher Dieu. Ils n'ont reçu que de mauvaises bases, aucune base religieuse. Ils ont reçu des bases matérialistes, parfois des bases perverses. Et pourtant, Dieu leur fait grâce. Prenons le cas de Osée, au chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 1. L'Éternel m'a dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant, une femme adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Qu'est-ce que veut dire Dieu ici à Osée? Choisis une femme infidèle, adultère et aime-la, comme moi j'aime les enfants d'Israël, qui offrent des gâteaux de raisin à Astarté, Asherah, la déesse du ciel. Que veut dire Dieu? C'est que Dieu a un amour plus fort que le péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « La grâce a surabondé là où le péché a abondé. » Prenons le chapitre 10, verset 12 de Osée. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Donc ici, cette image du paysan qui sème et moissonne reçoit une pluie, il répand pour vous la justice, une pluie de justice, la sainteté, le pardon du péché. Semez et vous récolterez le pardon de vos péchés. Semez, cherchez la parole de Dieu, mettez-la dans vos vies, semez et moissonnez, cherchez la récolte de la parole de Dieu selon la miséricorde, c'est-à-dire selon l'amour divin qui vous donne la révélation en Jésus-Christ. Chapitre 12, verset 7. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Piété, c'est-à-dire la foi, la relation vivante avec Dieu, la justice, la sainteté de Dieu. Espère toujours en ton Dieu. C'était donc Osée, chapitre 12, verset 7. Dieu peut, à des individus qui n'ont aucune base religieuse, aucune base spirituelle, se révéler et leur donner un avenir. Dieu peut donner un avenir certain et fort et solide. Et c'est cela aujourd'hui. Quels que soient les découragements, quelles que soient les incertitudes, les angoisses, Dieu, le Dieu vivant, de Jésus-Christ et de la Bible des prophètes assure un avenir certain à ceux qui croient en lui. Ésaïe 52, versets 5 à 13. Tous ces textes, en général, que je viens de lire, que je continue à lire, sont des textes du 8e siècle avant Jésus, de différentes régions d'Israël, des hommes qui ne se sont pas forcément connus, et qui tous ont été poussés par l'Esprit Saint à parler lors d'une période de grande décadence morale, sexuelle, et de grande période de soif de pouvoir, d'argent, de biens, de consommation. Ésaïe 52, verset 5. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Quand on parle dans Ésaïe de bras de sainteté, c'est le Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Et toutes les extrémités de la terre le verront. Ils verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de la vie du péché. Purifiez-vous, vous qui portez les vases éternels, c'est-à-dire vous qui priez Dieu. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Donc, n'écoutez pas vos angoisses. N'écoutez pas vos passions, vos convoitises, votre religiosité ou votre athéisme. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous, le Dieu d'Israël fermera votre marche, tout comme le peuple qui sortait d'Égypte et qui passait la mer Rouge. Voici la promesse de l'Éternel pour l'humanité. Voici mon serviteur prospérera. Il montra, il s'élèvera bien haut. Jésus-Christ, dans sa gloire, conduira les croyants, toute personne revenue à Dieu en vérité. Prenons Matthieu 12, 48. Matthieu 12, 48. Jésus dit ceci : qui est ma mère et qui sont mes frères ? Étendant la main sur ses disciples, c'est-à-dire les enseignés, ceux qui aiment Jésus et sa parole, il dit : voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Nous pouvons bénéficier de la part de Jésus du même amour, de la même compassion, de la même simplicité de cœur. Simplicité du cœur divin en Jésus, c'est de faire de moi un frère ou une sœur de sa propre personne et de faire de moi un enfant de Dieu. Il en a le pouvoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur la terre. Et il a le pouvoir de m'introduire dans la famille d'amour de Dieu. Quelle que soit la situation d'aujourd'hui, nos angoisses peuvent cesser en ayant reçu la filiation divine, en ayant reçu l'héritage que tout papa réserve à ses enfants. La gloire, la vie divine. L'avenir est certain, chers amis. L'inquiétude ne peut que régner tant qu'on ne cherchera pas Jésus, ni l'action de Jésus en nous. Dieu peut certifier en nous, par le don du Saint-Esprit, et par son pardon à la croix, il peut certifier que je deviens enfant de Dieu. Le croyez-vous, le demandez-vous à Dieu et à Jésus-Christ. Dieu peut me donner un pardon qui est certain, qui est sans retour, quel que soit ce que j'ai fait, j'ai pu faire ou que je n'ai pas fait, j'aurais dû faire. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous sommes tous sous l'empire du péché. La parole dit cela au verset 9. Au verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur bouche est un tombeau ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin serpent. Leur bouche est pleine de malédictions d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais pourtant, chers amis, mais pourtant, sans la loi, c'est-à-dire sans les 10 commandements, est manifesté le pardon de Dieu, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage tous les prophètes et la loi, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous qui croient, sans distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement pardonnés, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu a destiné à, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, c'est-à-dire qui annule toute colère de Dieu sur nous, afin de montrer sa justice, son pardon pour nos péchés, parce qu'il avait laissé auparavant les péchés commis au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Chers amis, nous sommes gratuitement justifiés, Romains chapitre 3, verset 23, nous sommes gratuitement justifiés. C'est un pardon qui est certain. Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que personne ne périsse, mais reçoive la vie éternelle. Le jugement de Dieu est favorable à l'homme qui se repent, car Dieu est juste et miséricordieux. Il peut annuler toutes les dettes, toutes les fautes. Il peut donner sa grâce. Et tout homme aujourd'hui dans notre société, société perturbée et qui va vers de plus grandes perturbations, tout homme peut trouver la paix que le monde ne lui donnera jamais. 1er aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. 4, verset 13. Nous vous prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit Saint, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Je veux dire donc que le pardon est certain, l'avenir est certain en Jésus-Christ. Le jugement de Dieu est certain pour qui demande pardon. Il l'accepte comme enfant de Dieu, il le pardonne. Et il le transforme. Si cette personne se laisse transformer, évidemment, accepte la volonté de Dieu dans sa vie. Philippiens 3, 8. 3, verset 8. Avons-nous une réponse à donner à ceux qui disent « Tout va mal, où irons-nous ?» Oui, nous avons cette réponse de l'Évangile. Philippiens 3, 8. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence d'une relation sainte et vraie, vivante avec Jésus-Christ, me fait considérer, c'est ça que Paul dit, toutes les autres choses comme secondaires. Si je les perds, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être en relation avec mon Seigneur Jésus, qui m'a donné la vie éternelle et qui me fera revenir dans la résurrection des justes sur terre avec la gloire de Christ. C'est cela que Paul veut dire. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui viendrait de la loi, de mon orgueil, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je connaîtrai Jésus-Christ, je connaîtrai la puissance de sa résurrection, je connaîtrai la communion de ses souffrances. Évidemment, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Je connaîtrai la communion en devenant conforme à lui dans sa mort, mort au péché, pour parvenir, si je puis, ça veut dire si j'obéis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Chers amis, nous voyons que Paul a été saisi par Jésus-Christ. Notre avenir, c'est de se laisser prendre, saisir par Jésus-Christ. C'est de ne plus appartenir à soi-même, mais lui appartenir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je résume la situation. La miséricorde de Dieu dépasse infiniment la situation d'aujourd'hui de ce monde et de nos détresses et de nos injustices, de nos égoïsmes que nous avons entretenus. Si nous avons cru être rois sur cette terre, maintenant il nous faut être sujets du roi, du grand roi, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus reviendra sur terre. Cela est exprimé dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 45. Tous les empires seront brisés afin que le grand royaume soit établi. Prenons maintenant Marc chapitre 6, verset 45. Marc 6, verset 45. À 52. C'est un sujet peut-être assez, pour certains, allégorique, symbolique, mais en fait, il est très réel. Marc 6, 45. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Chers amis, nous devons monter dans la barque. Sur la mer, dans la vie de ce monde, nous devons aller vers la tempête. Jésus nous rejoindra et montera dans la barque. C'est une certitude, Jésus est Dieu. Jésus est ressuscité et vivant. Jésus a tout pouvoir de conduire la barque et d'arrêter la tempête. L'humanité ne peut pas disparaître. Le péché doit disparaître. La tempête doit disparaître. Mais pas l'homme. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce récit montre bien à quel point il faut obéir. Montons dans la barque, faisons confiance au Seigneur et traversons la vie de ce monde avec la certitude que Jésus ne nous oublie pas, prie pour nous, veille sur nous et nous rejoint, même si c'est la dernière seconde. Prenons Apocalypse 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Jésus-Christ. Il règnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards, donc les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, c'est le cas actuellement. Ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, c'est-à-dire tous ceux qui ont péché, de récompenser tes serviteurs les prophètes, récompenser les saints et ceux qui craignent ton nom, récompenser les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Nous avons donc clairement l'image d'un jugement où Dieu sera intègre. Choisissons notre chemin. Maintenant, je voudrais aborder, c'est la dernière partie de mon exposé, je voudrais aborder non pas la situation des adultes qui s'angoissent et qui pourtant sont encore bien dorlotés malgré tout, pas tous, mais enfin, je voudrais aborder la situation des jeunes. Les jeunes connaissent un grand vide spirituel. 40% des jeunes aujourd'hui, faute de trouver un enseignement spirituel dès leur petite enfance, s'adonne à l'occultisme. Dans les autres civilisations, moins modernes, moins équipées, on s'intéresse à l'intégrisme religieux. 40%. Voyons maintenant vers quel autre, les autres, quant aux autres, sur 100%, il y a donc 60%. 40% ça donne au plaisir des sens et des corps, y compris les drogues et les plaisirs des discothèques et de l'alcool. Dans les autres civilisations, on trouve les mêmes plaisirs, la même recherche des sens, des corps et des drogues. 40%. Et alors, pour les autres, 4% cherchent Dieu activement. Saute vers l'islam, saute vers l'évangile. En Occident, 4%. Dans les pays non occidentaux, dans les autres pays, 15% des jeunes cherchent Dieu. 2/3, 10% pour l'évangile, 1/3 pour l'islam. L'évangile est en croissance dans tous les autres pays, comme Amos chapitre 8 l'avait annoncé. Pour les quelques autres pourcents qui nous restent, quelques pourcents, une soif de guerre et de violence et de destruction. Maintenant, j'en viens à cette population jeune. Comment est-on arrivé à créer le désespoir chez les jeunes? On a d'abord, depuis plus de 60 ans, favorisé les désunions, en facilitant les divorces. On a défavorisé la stabilité des couples, hommes et femmes. On a favorisé d'autres types de couples. On a défavorisé les valeurs judéo-chrétiennes. On a favorisé l'avortement, les relations sexuelles sans responsabilité. Et on est arrivé à vider l'âme des jeunes on est arrivé à détruire le monde affectif, le monde des modèles dont les jeunes ont besoin. Voilà un des premiers aspects, comment le désespoir chez les jeunes a été engendré par une société qui les a mis au monde. Un deuxième aspect, c'est que les jeunes passent 2h30 par jour sur Internet ou sur des jeux électroniques. Pour les adultes, c'est au moins, en France, 3h à la télévision. Pour certains adultes, il y a encore Internet. 5 à 6 heures ou 7 heures d'isolement devant un écran, des heures volées à Dieu, où l'on aurait pu avoir une relation d'amour et d'affection, une recherche de foi, un temps de lecture. On constate actuellement dans les adolescents que les filles lisent, pour 62% des adolescentes, elles lisent des livres, elles recherchent des livres, plutôt que des jeux Internet et autres, bien qu'elles aillent aussi les fréquenter. Mais que vont-elles lire? Quel type de lecture va-t-on leur offrir? Est-ce que c'est l'Évangile? Aujourd'hui matin, des amis nous racontaient qu'ils avaient distribué 175 évangiles devant une école secondaire en France, à Reims. Des jeunes en demandaient. Ils ont été devant une université à la sortie, ils avaient des évangiles, ils les proposaient, ils ne les imposaient pas. 150 étudiants, donc de 18 ans à 25 ans, ont demandé un évangile. Chers amis, la jeunesse a soif et elle attend des signes supérieurs d'une grande qualité. J'écoutais hier dans la radio, dans ma voiture, Jean-Sébastien Bach. Et il y avait une cantate en allemand, j'aime l'allemand, une cantate où c'était dit « Le temps du Seigneur est le meilleur ». Si Jean-Sébastien Bach, à l'époque, à son époque, qui n'était pas meilleur que la nôtre, a osé créer cette cantate qui a été chantée devant des nobles, devant plein de monde, « Le temps du Seigneur est le meilleur », pourquoi aujourd'hui nous ne pourrions pas chanter aussi « Le temps du Seigneur est le meilleur » car le temps des hommes est parfois beaucoup moins bon. Oui, notre jeunesse a une absence de modèle, mais le temps du Seigneur est le meilleur pour eux. Oui, il faut aider les jeunes et les jeunes adultes à sortir des drogues, de l'alcool, de la violence, du sexe. Le temps du Seigneur est meilleur pour eux. Quittons les faux modèles. Beaucoup de gens, n'ayant pas trouvé la paix et de bons modèles dans le catholicisme, dans le protestantisme, se sont tournés vers le modèle bouddhiste, vers les chamans, les brahmanes. Ils ont recherché des systèmes, des techniques de méditation. Toutes ces attitudes ont développé l'amour du moi, le soi, et ont engendré chez ces personnes une technique d'isolement par rapport aux autres, une technique de non-ouverture aux autres, donc une rupture avec l'amour envers les autres. Or, l'Évangile dit ceci, si nous aimons nos frères, nous sommes des nouvelles créatures. Il y a donc un test que l'Évangile propose, c'est la foi en Dieu, en Jésus-Christ, et la mise en pratique. La sortie de soi-même, la mise en pratique va toujours vers les autres et pour Dieu. L'Évangile est un chemin de liberté par rapport au moi et au soi. Les techniques de méditation moderne et tous les faux modèles religieux qui sont proposés tentent à isoler les personnes. Il y a 2 jours, je visitais un papa gravement malade. Tous ses fils sont tournés vers des modèles de méditation, de naturistes, naturalistes. Ils n'ont aucune considération pour leur papa. Vu, étant donné sa foi chrétienne, ils le traitent de cas social. Oui, pour cette jeunesse qui a développé un modèle du moi, du soi, un chrétien est un cas à part, un cas anormal, un cas bizarre, regrettable, un accident de la nature. Mais finalement, est-ce que Jésus-Christ serait un accident de l'histoire? Est-ce que Jésus-Christ serait un accident de la nature? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point. Chers amis, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans la recherche. Et l'avenir, selon Dieu, est positif. Dieu est patient. Dieu offre une alternative. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Durant de longues années, chers amis, j'ai cru que c'était Dieu qui avait détruit les humains, qui avait détruit la terre, qui en faisait une nouvelle. Ce n'est pas le cas. C'est le péché de l'homme qui détruit la terre, qui détruit les cieux, détruit la nature. Mais Dieu aime ce qu'il a créé et reste fidèle à son amour. Donc Dieu restaure la terre, Dieu restaure les hommes, Dieu restaure les animaux. Le premier ciel et la première terre, marqués par le péché, avaient disparu. La mer, c'est-à-dire le chaos du monde, n'était plus. Et Jésus dit ceci, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Écris ces paroles, elles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. De la même façon, Ésaïe 65, versets 17 à 19, nous promet de nous aussi une nouvelle terre. De la même façon, Pierre, dans 2e épître de Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14, dit « Que Dieu exerce sa patience aujourd'hui, afin que tous se repentent et viennent à lui. » Chers amis, lisons Romains 8, 17, 18. Romains 8, verset 17 à 18. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons aujourd'hui avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, Adam et Ève. Avec l'espérance qu'elle elle aussi sera affranchie de la servitude, de l'esclavage, de la mort, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu l'Esprit. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption plénière, la rédemption de notre corps. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit Saint, Dieu même, appelé Esprit Saint, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit Saint, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de tous ses frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, donc les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis, je vais parler d'une période où nous étions tous dans l'inquiétude. Que deviendrons-nous si tout va mal? Vous avez la réponse avec Jésus-Christ, vivant et ressuscité. Croyez en lui, lisez l'Évangile, repentez-vous, humiliez-vous, il vous élèvera, il vous réjouira, il comblera votre âme et votre cœur, il vous donnera sa paix, celle que la société, le monde ne vous donnera jamais, que votre propre cœur ne peut pas vous donner. Cherchez le cœur du Seigneur Jésus, plein de miséricorde et de tendresse, lui qui a donné sa vie sur la croix pour vous. Aimez-le de toutes vos forces, de toutes vos pensées, en toute sincérité, et faites la volonté de Dieu exprimée dans la parole de Jésus. Amen.